L'émission suivante est également publiée sur notre blog Un héros dans le net. Rendez-vous dans la section commentaires pour joindre la discussion.
Aujourd'hui à l'émission Parole à propos, l'histoire de la théorie de l'évolution. Bienvenue à Parole à propos, mon nom est Pascal Deneau et aujourd'hui on va continuer notre série sur l'histoire de la théorie de l'évolution. Alors je suis, vous l'avez deviné, en compagnie de Julien. Alors bonjour Julien.
Bonjour Pascal.
Merci encore d'être à nouveau à l'émission. Alors Julien est de l'Association des sciences créationnistes du Québec et on a entrepris donc, depuis 2 semaines avec lui de... voir un survol qui est assez sommaire, là, mais de l'histoire de l'évolution. Et comme on a vu, ça n'a pas commencé avec Charles Darwin, mais déjà dans l'Antiquité grecque, on trouve en embryon cette théorie d'un univers matériel qui reposait davantage sur une conception athée de l'univers que sur des observations scientifiques. Par la suite, on a vu dans notre deuxième émission que Thomas d'Aquin, au Moyen-Âge, qui était un aristotélicien dans sa conception de la nature, donc qui se référait à Aristote, le grand philosophe, et qui a en quelque sorte christianisé la pensée d'Aristote, a amené quelque chose d'important dans la doctrine créationniste de l'Église officielle. C'était donc le fixisme, qui croit que tout ce que Dieu a fait est absolument fixe et qui venait en quelque sorte s'opposer à toute cette notion d'évolution sous quelque forme que ce soit. Et ce qu'on a dit, donc, c'était que c'était finalement pratiquement une doctrine, a engendré une vive réaction. Parce qu'il était facile de dénoncer l'erreur du fixisme, donc une réaction, et c'est ce qu'on va voir donc aujourd'hui, cette réaction qui a mené à une autre théorie, le transformisme, jusqu'à l'évolutionnisme moderne. Alors, est-ce que tu peux donc, à partir de là, Julien, nous expliquer comment les choses ont évolué?
Oui. Alors, dans le temps, on est rendu dans les années 1700, un personnage important, là, donc le premier là, qui a fait une très forte réaction contre le fixisme radical, c'est le comte de Buffon, donc vécu dans les années 1700. C'est donc un personnage influent, parce qu'on va voir là que la table a été mise pour Darwin dans le temps par des personnages influents. Et quand Darwin a publié son livre, c'est encore quelques scientifiques très, très influents qui ont approuvé son livre, construit des arguments pour venir l'appuyer. Le comte de Buffon est un personnage influent qui a mis la table pour Darwin. C'est probablement le premier transformisme.
C'est un Allemand, c'est un quoi?
C'est un naturaliste, mathématicien, écrivain français.
Ok, c'est un français. Okay,
oui, c'est ça. Il gérait le cabinet d'histoire naturelle du roi. Il y avait plusieurs appuis politiques. Il y avait directement l'appui du roi Louis XV.
Okay.
Il s'oppose. C'est un scientifique assez assez arrogant. Il s'oppose au système de classification de Carl von Linné qu'on a parlé dans la dernière capsule, qui est mondialement reconnu, qui est efficace. Et donc, cette espèce d'arrogance là, qui s'oppose même à des faits connus, à des travaux majeurs. Il va devenir trésorier de l'Académie des sciences. Il a plusieurs privilèges. Il adhère au matérialisme et au scepticisme religieux. Il est d'abord et avant tout opposé à la religion. C'est ça sa quête. Il est scientifique, mais il va se servir de la science pour venir s'opposer à l'autorité de l'Église, s'opposer à cette idée que les espèces sont fixes.
Et ça revient un petit peu à ce qu'on disait dans notre première chronique, que la motivation première, semble-t-il, dans l'évolutionnisme a toujours été de s'opposer à la divinité plus que d'être véritablement objectif avec les faits.
Oui, à tout le moins ce qu'on est capable de voir et de dire et d'affirmer, c'est que ces personnes-là influentes, que ce soit les philosophes grecs ou maintenant le comte de Buffon, étaient des personnes fortement en réaction contre l'autorité de l'Église contre l'autorité de la divinité. Et ça, c'est constant, ça. C'est constant. Tous les personnes qui sont venues avoir des influences dans le transformisme ou dans l'évolutionnisme, c'est des personnes qui avaient perdu la foi et qui voulaient même maintenant faire une guerre à la foi.
Mm-hmm.
Il va publier, le comte de Buffon, un ouvrage majeur qui s'appelle « L'histoire naturelle » en 36 volumes. Et de là va partir son influence, hein, parce que les écrits restent. Et ces travaux majeurs-là vont lui donner une notoriété, une influence. Et il va donc influencer les deux premiers théoriciens de l'évolution, Lamarck et Darwin, par les idées du transformisme.
Mm.
Maintenant, il est important de faire un petit parallèle dans le temps, parce que vous savez que l'ingrédient principal de l'évolutionnisme, c'est le temps. Ça prend des millions d'années pour que un poisson se transforme en amphibien, se transforme en mammifère. Pourquoi? Parce qu'il y a toute une morphologie au complet de l'animal à changer, des nouveaux gènes dans l'ADN qui doivent apparaître par magie. Moi, je dis par magie parce que sur le plan mathématique, c'est impossible que les recombinaisons aléatoires puisse créer des nouveaux gènes. Et donc, c'est le temps. La baguette magique des millions d'années a été un ingrédient majeur qui a mis la table pour Darwin.
Et c'est donc au 18e siècle qu'est apparue cette notion de temps pratiquement infini, là, ces valeurs de temps de milliards d'années.
Oui. Au début, c'était des millions d'années. Les milliards d'années, c'est venu plus tard. Mais donc, James Hutton a été un scientifique qui a joué un rôle majeur là-dedans, un géologue écossais. Il s'oppose au catastrophisme. Le catastrophisme qui est l'idée que les reliefs de la Terre ont été formés par des catastrophes. Lui, il s'oppose à ça. Il va donc suggérer que tout se forme très lentement la Terre serait infiniment vieille. Donc, l'idée des millions d'années est donc avancée et supportée par James Hutton. Et là, on a son successeur, Charles Lyell. Donc, il est un disciple de Hutton et qui va devenir un ami de Darwin, un personnage qui va influencer fortement Darwin.
Okay.
Donc, Charles Lyell, qui a vécu dans les années un peu plus tard que James Hutton, dans le siècle d'après, dans les années 1800, il va former une théorie qu'on appelle uniformitariste. C'est que tout se forme très, très, très graduellement, très, très, très lentement et sans catastrophe. Donc, il vient s'opposer au déluge universel de la Bible. Donc, tout se forme par des processus qui opèrent dans le présent. C'est l'érosion, le vent qui a, le soulèvement de la croûte terrestre aurait fait les montagnes. Tous des phénomènes qu'on ne peut pas observer en passant parce qu'ils se font sur des millions d'années. Donc, on est dans le théorique. Mais l'idée des millions d'années devient un outil pour ceux qui croient au transformisme. Parce que le transformisme est tellement impossible et tellement inobservable, parce que malgré qu'on voit les espèces bouger un peu, comme toute la variété de chiens qu'on voit ou de chevaux, on voit jamais de nouveaux organes apparaître.
Ouais, alors quand tu dis on peut pas le vérifier, donc cette idée de temps traite pour beaucoup de gens aujourd'hui dans la notion populaire, c'est qu'on croit que ce sont des faits scientifiques irréfutables, mais c'est davantage des suppositions, des théories qu'on présume être vraies pour essayer d'appuyer ce qu'on croit être des faits. Donc, c'est arbitraire de déterminer la valeur du temps. Est-ce qu'il y a des observations scientifiques pour croire que l'univers ou la Terre a des millions ou des milliards d'années, ou c'est vraiment un présupposé arbitraire?
Ben, c'est sûr qu'ils réussissent à construire des arguments, mais les arguments sont souvent très, 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 très faibles. Et c'est pour ça que depuis les années 80, les géologues reviennent au catastrophisme. Pourquoi? Parce qu'on voit ce que les tsunamis font, les éruptions volcaniques, où on voit la puissance de l'eau. Hein, à chaque année, on voit les côtes qui reculent avec l'érosion. Donc, on peut pas croire à des millions d'années. Tout sur la Terre s'opère beaucoup trop rapidement. Le champ magnétique se dégrade beaucoup trop rapidement pour que la Terre soit vieille. L'érosion des continents, l'érosion de la pluie qui cause une érosion sur les montagnes est beaucoup trop rapide pour que la Terre ait des millions d'années. Les continents auraient disparu. Donc, il y a beaucoup plus d'arguments en faveur d'une terre jeune, mais ça, c'est toute une conférence au complet. Il y a beaucoup plus d'arguments en faveur d'une terre jeune, mais oui, les évolutionnistes, si on veut, réussissent à trouver des arguments, par exemple, ceux qui se basent sur la radiométrie, les datations radiométriques, mais c'est un argument qui est vraiment faible parce qu'il est aucunement possible de calibrer des méthodes qui se basent sur des dégradations d'éléments radioactifs qui se font sur des millions d'années. On peut pas voir si c'est vrai qu'en tant de millions d'années, de l'uranium se dégrade pour devenir du plomb. Ouais. On peut pas le vérifier parce que ça prend 300 à 400 millions d'années à se dégrader. Fait que c'est toujours dans le théorique.
Ouais. Ben c'est ça. Alors moi, ma question initiale, c'était vraiment à l'origine, quand cette idée de longue période de temps est apparue, c'était davantage arbitraire là. Il y avait pas de rien qui
Non, c'est vraiment l'idée que ça a parti de l'idée que il faut regarder qu'est-ce qui se passe dans le présent pour essayer d'expliquer comment les formations terrestres se sont faites. Par exemple, il y avait des idées qui disaient que les sédiments des continents qui s'érodent se déposent au fond des océans, puis par l'action de la chaleur interne de la Terre, ils reviennent par en dessous puis ils font des continents. C'est ce genre d'idée-là qui était avancée. Donc, c'est pas du concret. Comment voulez-vous vérifier que les sédiments avec des millions d'années passent par en dessous et reviennent par en haut? Mm-hmm. Mais ça a mis la table pour les transformistes. Mais là, on arrive à Jean-Baptiste Lamarck, qu'on connaît bien. Avant ça, je veux juste vous revenir sur le sujet de Charles Lyell. Il a publié en 1830 à 1833, il a publié Les Principes de géologie. Donc, un ouvrage très important là, qui était une tentative d'expliquer les changements de la surface de la Terre par des causes opérant actuellement. Alors, Darwin va lire le premier livre des Principes de géologie lors de son voyage à bord du Beagle. Vous voyez que les morceaux du casse-tête se mettent tous ils commencent à s'imbriquer l'un dans l'autre. Mmh. Charles Lyell va commencer par influencer Darwin par ses premiers livres. Darwin les a avec lui quand il va dans son fameux voyage du Beagle sur les îles Galapagos. Et plus tard, Charles Lyell va devenir un ami de Darwin et va même venir être un des premiers à appuyer les écrits de Darwin sur la théorie des origines. Alors, avant ça, on a le premier à avoir vraiment formulé une théorie transformiste, Jean-Baptiste de Lamarck. Il va expliquer un mécanisme qui permet la complexification des êtres vivants, ce qu'on appelle la transmission des caractères acquis. L'exemple, c'est que dans ma vie à moi, si j'utilise ma main droite beaucoup, ben mon enfant va avoir une main droite probablement plus forte, plus grande. C'est comme si l'utilisation d'un organe fréquente durant la vie fait en sorte qu'on va on va transmettre ça à nos enfants.
Donc, ça, en fait, c'est Lamarck qui...
C'est ça, c'est le lamarckisme. La quatrième loi de Lamarck, je vous l'énonce, qui dit « Tout ce qui a été acquis, tracé ou changé dans l'organisation des individus pendant le cours de leur vie est conservé par la génération et transmis aux nouveaux individus qui proviennent de ceux qui ont été éprouvés par ces changements. » L'exemple de la girafe qui s'étire le cou pour manger dans les arbres, vu qu'elle s'étire le cou, sa progéniture va avoir un cou un peu plus grand. Cette idée-là de Lamarck, donc, même si elle s'est avérée fausse par après, a eu une influence majeure quand même.
Mais même encore aujourd'hui, il me semble que les évolutionnistes utilisent ça constamment, là, sont toujours en train de revenir là-dessus pour dire bon, l'homme préhistorique faisait telle chose et c'est pour ça que pour expliquer certaines caractéristiques physionomiques ou même on l'utilise socialement, là, le comportement social de l'homme et
t'as bien raison que les évolutionnistes le font, mais c'est sans s'en rendre compte. Ils aiment pas les évolutionnistes qu'on les accuse d'être lamarckisme, parce que lamarckisme est faux. Quand même que je me fais couper un bras durant ma vie, mon enfant va avoir deux bras, parce que c'est dans mon ADN qui est écrit de faire deux bras. Et ça changera pas parce que mon bras est coupé, pour vous donner un exemple. Donc le lamarckisme, il s'est avéré faux, il a été réfuté. Mais les évolutionnistes, dans leur discours, quand on les écoute aujourd'hui, quand ils disent qu'un insecte a évolué pour avoir des ailes parce qu'il en avait besoin d'eux, c'est le genre on entend toujours ce discours-là que la nature avait besoin d'eux. Il fallait que tel organisme, ses écailles se sont transformées en plumes, les reptiles sont devenus des oiseaux parce qu'à un moment donné, il y avait tel besoin. Et dans leur discours, c'est comme présent qu'un besoin ou une situation de l'environnement aurait comme créé un organe. Mais dans les faits, ils nous disent « Non, c'est pas vraiment ça que je veux dire. C'est qu'il y a eu des variations génétiques qui ont été favorisées par l'environnement. » Mais quand ils disent, ça ressemble à du lamarckisme.
Ouais.
Et dans la réalité, c'est ce qu'ils croient. Ultimement, c'est ce qu'ils croient. C'est que la nature, l'influence de la nature, la pression de la nature a engendré des besoins dans les espèces. Ultimement, c'est ce qu'ils nous disent. Quand on isole une toute petite partie de leur discours, puis là, on se concentre sur les mutations génétiques, la sélection naturelle, ça a l'air tout beau, tout scientifique. Mais ultimement, ils nous disent que la nature a créé, la nature avait besoin d'eux. Et c'est présent même dans des revues scientifiques de haut niveau, ce genre de discours-là, de personnifier la nature, personnifier un insecte en disant que l'insecte avait besoin d'eux pour survivre, tu sais.
Je trouve ça vraiment intéressant. Moi, je suis sûr que j'ai pas une formation en science, là, mais davantage en théologie, mais de toujours interpréter cette tendance théologiquement de diviniser la nature. L'homme se fait des idoles et il rejette Dieu, mais à partir de la chose que Dieu a créée, il se fait un Dieu.
Oui, effectivement, la nature devient le maître de tout, elle devient pensante et elle devient avec une certaine personne. Et les évolutionnistes, bien sûr, si on leur dit qu'ils font ça, ils vont dire « ben oui, c'est une analogie, c'est une image ». Mais ultimement, si on revient à la base, c'est ce qu'ils nous disent. La nature a engendré, a créé des pressions sélectives qui ont engendré des organes et bon, etc. Et on sait que c'est complètement faux. La nature n'est pas pensante, les atomes ne sont pas pensants, les cellules ne sont pas pensantes.
Mmh. Ouais, c'est fort intéressant. On va devoir interrompre ici. Donc, on est vraiment, on a à peine effleuré l'origine du transformisme. On va donc y rentrer un peu plus en profondeur dans notre prochaine discussion. Bien, merci beaucoup encore une fois, Julien.
Ça m'a fait plaisir. Merci, Pascal.